Évangile de Jean au chapitre 6, à partir du verset 1. Après cela, Jésus s'en alla sur l'autre rive de la mer de Galilée, la mer de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les signes qu'il produisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne. Là, il s'assit avec ses disciples. Or, la fête des Juifs était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une grande foule venait à lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites installer les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu. Ils s'installèrent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il fit de même pour les poissons. Et ils en eurent autant qu'ils voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc. Ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'il avait produit, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète, qui vient dans le monde. » Jésus, sachant qu'il allait venir s'emparer de lui pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, seul. Amen. Voici donc un autre signe, autre miracle, étonnant, éloquent à première vue. Un miracle bien sympathique pour celui qui a faim, mais un miracle qui renvoie à une autre réalité. Car ce signe, cette réalité première, qu'est la multiplication des pains et des poissons, nous renvoie à quelque chose d'autre, de plus profond. Car en effet, ces miracles sont dans l'évangile de Jean des signes qui renvoient à une autre réalité. Et dans notre texte, les amis, nous sommes spectateurs d'un nouveau signe. Un signe qui nous conduit à mieux connaître, mieux apprendre qui est Jésus. Mais nous sommes appelés à ne pas nous résumer à ce rôle de simple spectateur, mais à être acteurs de cette grande histoire de Dieu. Alors, comment comprendre ce signe ? Il y a là une grande foule qui se rassemble, une foule qui est là pour les miracles, curieuse et en même temps en attente. Et Jésus va se servir de la mémoire collective de son peuple, avec un contexte qui évoque peut-être des épisodes de l'histoire d'Israël. Si je vous dis « Je vous ai compris », vous pensez à qui ? Charles de Gaulle. Certains disent « Le grand Charles », selon les acquaintances politiques, n'est-ce pas ? Mais Jésus fait quelque chose d'assez similaire ici. Il se rend sur une montagne avec ses amis. Il vient là revisiter quelque part l'histoire de son peuple, parce que sur cette montagne, sur une montagne, n'est-ce pas l'endroit où Moïse a rencontré Dieu ? N'est-ce pas l'endroit où il a reçu la loi de Dieu ? Et sur la montagne de Dieu, n'est-ce pas le lieu où un jour, quand le Messie sera là, quand les hommes et les femmes seront rassemblés, comme le dit le prophète Ésaïe, n'est-ce pas sur une montagne, celle de Dieu, que tout le monde partagera un repas ? Autour de cela, sur cette montagne, Jésus rassemble ses amis, ses plus fidèles amis, ceux qui l'ont suivi depuis là. Il va leur parler, les enseigner, tranquillement, en attendant. En attendant que la Pâque s'approche. La Pâque, la fête des Juifs, nous dit le texte. Est-ce qu'il y a une autre Pâque que celle de la fête des Juifs à cette époque-là? Est-ce qu'il faut en attendre une autre? Nous l'avons déjà vu. La Pâque des Juifs est celle qui préfigure celle du Christ. Alors voilà, Jésus est sur une montagne en attendant la Pâque. Épisode qui n'est pas sans rappeler des épisodes clés de l'histoire d'Israël. Toujours est-il que c'est dans ce contexte que 5000 hommes, auxquels s'ajoutent bien sûr femmes et enfants, se rassemblent. Et c'est dans ce contexte particulier que Jésus va pourvoir à leur nourriture comme le Dieu d'Israël autrefois dans le désert. Et il va le faire de façon tout à fait abondante. Et alors c'est comme ça, c'est pour ça qu'on peut comprendre cette réaction de la grande foule. Oui, oui, bien sûr, c'est lui, c'est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Car si Jésus s'incarne dans un contexte de l'histoire d'Israël, il n'est pas sans évoquer non plus des précédents d'une multiplication de pain. Parce qu'effectivement, il y a des précédents dans la Bible, d'autres personnages clés qui ont multiplié la nourriture. Il y a d'abord l'épisode de la manne dans le désert, Exode 16, où la manne tombe du ciel, alors que le peuple est en train de râler un tout petit peu, en oubliant au fond que l'Égypte n'était quand même pas si évident que ça à vivre. Et le Seigneur, dans ce contexte un peu proche de nous, n'est-ce pas, nous avons parfois tendance à oublier la fidélité de Dieu et à râler un tout petit peu quand les difficultés arrivent. Et c'est dans ce contexte-là que le Seigneur pourvoit avec la caille, l'écaille et la manne. Et l'optique de cette nourriture n'est pas simplement de réjouir le ventre, mais c'est aussi que cette manne, ces cailles, soient le signe, un signe qui nourrisse leur foi. Voici ce que dit le Seigneur à Moïse. Ils recevront le soir la viande et le matin le pain. Le soir, pour qu'ils reconnaissent que c'est le Seigneur qui vous a fait sortir d'Égypte. Et au matin, vous verrez ainsi la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. C'est ce que Jésus est en train de faire en multipliant ses pains et ses poissons. Il n'est ni plus ni moins en train de manifester, révéler la gloire de Dieu, la présence sainte de Dieu au milieu de son peuple. Mais là où c'est problématique, où ça pose question, c'est qu'en principe, la manne tombe du ciel. Et là, le texte nous dit que c'est le pain vient des mains de Jésus. Est-ce que Jésus ne serait pas Dieu ? Le pain nouveau qu'il est en train de donner, ne serait-ce pas le pain qui vient du ciel, celui qui donne la vie ? Et il y a un autre précédent, celui d'Élisée, le successeur d'Élie, que l'on trouve dans le livre de 2 Rois 4. Élisée, un prophète qui va nourrir 100 hommes avec 20 pains d'orge. Pains d'orge, c'était des petits pains pour les personnes les plus démunies. Il va le faire en réponse à cette question de son assistant. Comment pourrais-je donner du pain, ces 20 pains, à 100 personnes? N'est-ce pas sans nous rappeler cette question que Jésus pose à ses disciples au verset 5 du texte de l'Évangile de Jean? Où achèterons-nous le pain pour nourrir ces personnes? Jésus fait quelque chose d'assez extraordinaire. Parce qu'autant Élisée, le miracle était extraordinaire, mais 20 pains pour 100 hommes, si on coupe quelques tranches, on peut y arriver. Mais 5 pains, 2 poissons, pour 5000 hommes, autant de femmes et d'enfants, l'action de Jésus, l'action de Dieu est d'autant plus manifeste dans celle que celle d'Élisée. Il y a donc là tout un contexte de l'action de Dieu, l'action de Jésus, pardon, celle de Dieu aussi d'ailleurs. Il y a l'arrière-plan, la montagne, la Pâque. Il y a ces précédents dans la Bible, Moïse, Élie, Élisée, successeur d'Élie. Et puis, à cela s'ajoute, dans la spiritualité d'Israël, l'attente, l'espérance. L'espérance d'un nouveau Moïse, que l'on trouve comme une promesse de Dieu en Deutéronome 18. Je susciterai pour eux, parmi leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Attente d'un nouveau Moïse, d'un nouveau libérateur. Attente d'un nouvel Élie, dont Élisée sera le successeur. Malachie 3, versets 22 à 24. « Je vous envoie Élie le prophète, avant que n'arrive le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leurs pères. » Alors voilà, chers amis, si vous étiez au pied de cette montagne, avec cet arrière-plan juif, avec ces croyances profondes, cette histoire qui s'enracine dans les siècles, et que vous voyez un homme qui fait quelque chose d'extraordinaire et qui rappelle et qui évoque des attentes, on peut vite comprendre pourquoi la grande foule veut prendre Jésus et le faire roi. Le faire roi. Pour qu'il les délivre de l'empire, pas obscur, mais de l'empire romain. Mais là encore, Jésus va cheminer avec cette foule, avec ses disciples. Parce que c'est vrai, a priori, cette foule reste assez terre à terre. D'ailleurs, Jésus, un peu plus tard, leur dira, leur reprochera, « Au fond, vous n'êtes qu'avec moi que pour le pain et les poissons. Mais avez-vous compris qui je suis ?» Oui, le pain est nécessaire à la vie. Il est vital. Mais Jésus vient nous donner plus que la réunion de farine et d'eau. Il vient nous donner le pain qui donne la vie. Le pain qui se donne, car il est ce pain. Un pain qui donne une vie spirituelle, éternelle. Oh, pas une vie qui commencera après la mort, mais une vie qui commence maintenant, car la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, et que cette connaissance se prolonge jusqu'après la mort. Philippe, André, sont dans cette grande histoire, dans cette grande espérance juive. Ils se voient et ils voient se décliner sous leurs yeux l'espérance du peuple d'Israël. Cette grande histoire se décline sous leurs yeux et eux vont être spectateurs, peut-être acteurs, car l'Évangile nous dit que cet épisode de la manne est une épreuve. Épreuve comme était la manne dans le désert. Il y a là donc une grande foule et deux amis de Jésus, Philippe et André. Et Jésus pose encore une question qui dérange, ou qui nous étonne. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Où acheter? Et Philippe, trésorier de son état, n'est-ce pas, calcule recettes, dépenses. Bon, même si on a bien un an de salaire dans les poches, je crois que ça ne va pas suffire. Donc Philippe, en tout bon économiste, dit non. Jésus, là, c'est infaisable. Et puis, il y a André. André qui dit, qui reste lui aussi terre à terre. André qui dit, mais il y a bien un petit garçon avec des petits paniers. Des petits pains, des petits poissons. Mais qu'est-ce que cela devant cette grande foule qui qui a faim. Que faire ? Que dire ? Philippe et André se posent des questions, car ils sont là au creuset d'une épreuve, sans voir, sans se souvenir que celui qui leur pose la question est celui qui a changé l'eau en vin, celui qui a guéri des malades, des paralytiques. Mais ils sont comme un, enserrés, comme une main qui les opprime. Ils ne réfléchissent qu'avec leurs propres moyens. Ils sont mis à l'épreuve, sans comprendre que le signe est en train de les éclairer sur qui est Jésus et sur ce qu'il est capable de faire. Et l'épreuve auxquelles ils sont soumis aboutit à un double constat. Constat navrant. D'abord, ils constatent que leurs moyens sont limités. 200 deniers pour Philippe et 5 pains de poisson pour André. Autre constat navrant, c'est que le résultat escompté sera lui aussi limité. Il y a le peu pour Philippe et il y a pour tant de gens pour André. Et c'est à ce moment-là, dans le creuset de cette épreuve, quand ils ont mesuré leurs limites, leur manque de ressources, quand ils ont tourné en rond au creux de cette main de l'épreuve, quand ils ont constaté qu'ils étaient petits, que Jésus intervient. Jésus intervient. Notez-le en utilisant le petit. Petit garçon, petit panier, petit pain, petit poisson. Et nous, chers amis, nous qui sommes assez habitués à lire ce texte de l'évangile de Jean, est-ce que nous allons en rester au premier abord, en nous réjouissant que Dieu pourvoie à nos besoins matériels ? N'allons-nous pas aller un petit peu plus loin, en aspirant à des choses plus spirituelles, en attendant de Jésus qu'il pourvoie à notre bien-être spirituel. Nous sommes, chers amis, comme Philippe et André, au cœur de cette grande histoire, entre cette histoire de la manne et le repas dont parle Ésaïe. Il y aura un jour où nous partagerons, oui, le repas avec le Christ. Nous sommes dans cette grande histoire dont le Christ et dont Dieu tient la plume. Une histoire où Jésus vient nous dire qu'il est là, présent, pour nous donner une vie en abondance, une vie qui ne s'arrête pas, une vie qui est faite de communion avec Dieu, un Dieu qui sait tout, qui peut tout, qui voit tout. Mes chers amis, nous sommes comme Philippe et André, en marche, en chemin. Et nous sommes aussi souvent en train de rencontrer des épreuves, n'est-ce pas ? Il est des fois où l'épreuve nous en serre dans sa main. Nous sommes dans le creuset de cette épreuve. Nous tentons bien souvent de cerner le problème, de voir quels sont les moyens dont nous disposons, quelles sont nos ressources, quels sont les résultats auxquels nous pouvons arriver. Avec souvent cette impression qu'on n'y arrive pas. On tourne dans cette main enserrée. Et l'épreuve semble nous enserrer le plus en plus. Et dans le creux de cette épreuve, il nous arrive même parfois d'oublier Dieu, d'oublier ses actions passées, tous ces moments où il a été fidèle, tous ces moments où il est intervenu pour nous délivrer, nous épargner, nous sauver, nous guérir. Nous oublions tout ce qu'il a fait pour nous. Car nous ne voyons simplement les doigts de l'épreuve qui se resserrent autour de nous. Alors oui, cette histoire parle de vie en abondance, de vie éternelle, de vie qui nourrit notre âme dans les déserts de nos vies. Mais Philippe et André nous parlent de confiance dans l'épreuve, de foi en celui qui vient nous donner la vie. Il était, il il y a quelques années en arrière, j'ai vécu un petit épisode où j'étais dans le creuset de cette main. Je revenais d'un séjour au Cameroun et je suis tombé très malade pendant 2 mois. J'étais alité en attendant vraisemblablement, parce que les forces me quittaient, le jour où j'allais décéder, puisque les médecins ne voyaient pas, ne connaissaient pas cette maladie. J'étais comme dans le creuset de cette main, priant que le Seigneur m'en délivre vite. Et puis, les forces me sont revenues. Seigneur, que veux-tu m'apprendre dans le creuset de cette épreuve ? Et le Seigneur m'a éclairé petit à petit, rétabli, mais j'avais à faire face à une autre réalité. C'était qu'à l'époque, j'étais étudiant en maîtrise de droit. Et ces 2 mois m'avaient fait manquer un certain nombre de cours, louper les examens et empêcher de réaliser mon mémoire comme il le fallait. Alors comment faire ? Je tournais dans mon esprit. Comment faire, Seigneur ? Alors, constatant mes ressources limitées, les résultats escomptés limités, je me suis dit, bon, tant pis, allons-y, par la foi. Donc j'ai passé les écrits de rattrapage. Oh, j'ai eu des notes tout à fait moyennes. J'ai passé quelques oraux de rattrapage, dont l'un avec le doyen de l'université de droit à Nantes. Mais je n'avais pas eu le temps de réfléchir, de réviser, mais par politesse, je m'y suis rendu. Et avant que l'oral ne commence, j'ai dit à ce doyen, mais je viens juste vous présenter mes excuses, je ne pourrais pas passer l'oral, je n'ai pas eu le temps de réviser. Et le doyen me dit, allez-y, rentrez quand même, on va voir ce que vous pouvez faire. Donc il me met à l'écart, et me dit, allez préparer une question, je ne sais plus laquelle. Il me fait passer l'oral, me dit, effectivement, vous ne connaissez pas grand-chose. Mais il me dit, bon, comme vous êtes venu, je vous mets 9. Et puis normalement, il devait y avoir d'autres des étudiants qui n'ont pas eu la décence de venir. Alors je vais vous donner un demi-point par chaque étudiant qui n'est pas venu. Et j'ai eu 15 sur 20. Et il poursuit. Et il me dit, mais qu'est-ce que vous comptez faire l'année prochaine ? Je dis, très honnêtement, si j'ai déjà la maîtrise avec 10 de moyenne, sans en réaliser le mémoire, je ne sais pas. J'avais bien espéré faire le DEA duquel vous êtes le grand responsable, mais avec tout juste 10, ça ne passera pas. Et il me dit, remplissez le dossier. Je vous mettrai un post-it dessus et je vous compterai parmi mes étudiants l'année prochaine. Porte d'entrée vers le DEA. Le Seigneur m'avait montré sa fidélité. Alors que j'étais dans le creux de l'épreuve, voici que la main de Dieu s'est ouverte. Et c'est souvent là, lorsque l'on constate que nos moyens sont limités, que l'on a beau se débattre, que le Christ intervient. Et Philippe et André nous parlent de ça, du secours de Dieu quand vient l'épreuve. Ils nous parlent aussi de nos petitesses, petits poissons, petits pains, petits paniers. Ils nous parlent de nos faibles capacités. Mais quand le Christ vient dans nos vies, que de grandes choses merveilleuses il peut réaliser. Et Philippe et André nous parlent aussi d'actualité. Pardonnez-moi cette parenthèse. On entend souvent, ces derniers temps, lorsque l'on regarde l'actualité, mais ça serait tout le temps, au fond, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, n'est-ce pas ? On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Et c'est vrai, seul Dieu peut le faire. Et il l'a fait sur la croix. Du reste, Philippe et André nous invitent tout de même, conscients de nos limites, de nos petitesses, de nos manques de moyens, à penser, à réfléchir, à prier sur ce que nous pouvons faire pour toutes ces personnes, démunies, auprès comme au loin. Oui, l'épreuve, les épreuves que nous vivons, que nous voyons, servent aussi à tourner nos regards vers celui qui nous tend les bras pour nous accueillir, pour fortifier et nourrir notre vie. Que le Dieu qui pourvoit, qui est venu pour donner la vie en abondance, vous bénisse. Amen.